Hors champ, le podcast cinéma de l'EJT.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hors champ, le podcast des cinéphiles de l'EJT. Et nous sommes ravis de vous retrouver après 2 semaines d'attente. Entre-temps, le 5e volet d'Hunger Games est sorti dans les salles. Nous faisons donc appel à votre sagacité pour deviner le sujet de cet épisode. Si je vous dis trilogie, tétralogie, pentalogie, vous l'aurez compris, avec ces indices peu subtils, nous allons vous parler des sagas emblématiques du 7e art. Et on commence par une jolie mise en bouche avec la critique de la semaine. Audrey et Apolline, cette semaine, on le rappelle, vous êtes allés voir Hunger Games, qui est de retour au cinéma avec un préquel, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur.
Oui, on était très motivés, on s'est refait les 4 films précédents dans le train ce week-end.
C'était un long trajet.
Exactement, et en arrivant dans la salle, on était très excités à l'idée de redécouvrir l'univers dystopique où on avait rencontré
et adoré
la grande Katniss Everdeen.
Vous avez replongé en adolescence ?
Eh ben Martin, c'est ce à quoi on s'attendait, mais ça n'a pas tellement été le cas, tu vas comprendre. Dans ce film de 3 heures, le parti pris était assez différent des 4 autres. Clairement, il s'adresse avant tout aux fans de la saga, il est truffé de références, et ce que le réalisateur a bien compris, c'est que ces fans, ils ont grandi.
Certes, le postulat de départ est déjà assez lourd, des enfants se battent à mort dans une arène chaque année pour commémorer la rébellion des citoyens contre l'État, mais ces films qui s'adressent à des adolescents ne sont pas trash et restent parfois presque bon enfant. Par exemple, l'histoire tourne beaucoup autour des histoires d'amour du personnage principal, Katniss.
J'imagine que ce n'est pas ce que vous avez trouvé dans ce nouvel opus.
Alors là, non, pas du tout.
Mais soyons tout de même clairs, dès le début, c'est un bon film et il nous a plu. Il se déroule environ 60 ans avant les autres volets et nous raconte la jeunesse du président Snow, qui deviendra le grand méchant des prochains films.
C'est malin d'avoir conservé un personnage que l'on connaît, ça permet vraiment de se replonger dans l'histoire. On ne se sent pas abandonné au visionnage, on conserve certains repères.
Ce qui était très agréable, c'était de voir se construire au fur et à mesure la société qu'on connaîtra après dans la saga. Les fameux Hunger Games, donc jeux de la faim, étaient à l'origine un combat à mort, très rapide, et sont devenus avec le temps un véritable spectacle, et c'est ce autour de quoi tourne le film.
Mmh. Et s'il y avait un mot pour décrire ce qui vous a marqué dans le film ?
C'est la violence. Il s'agit de 3 heures où on nous montre très crûment la maladie, la mort, l'alcoolisme, la folie. Ça existe déjà dans les films précédents, mais c'était plutôt suggéré. Avec ce préquel, l'horreur monte d'un cran. Ce n'est pas forcément à mauvais escient, mais en entrant dans la salle, on s'attendait à autre chose.
Ou alors, votre verdict, les filles, on y va ou pas ?
Oui, mais soyez avertis, il n'est pas adapté à tous les âges. Malgré tout, c'est un film qui, selon nous, apporte à la saga, et comme vous le savez bien, c'est pas toujours le cas dans le cadre d'un 5e film, paru aussi longtemps après les premiers.
Comme c'est une saga à succès, un 6e opus pourrait bien sortir prochainement, un peu à la Star Wars qui continue de surfer sur l'amour que les spectateurs lui portent, en espérant que dans le cas d'Hunger Games, cet amour ne finisse pas par s'essouffler.
La scène mythique.
L'amour des fans de saga tient aussi au plot twist, au changement soudain dans le scénario. Pour Star Wars, Sophie Hulka vous livre les secrets derrière l'une des scènes les plus mythiques, sinon la plus mythique de l'histoire du cinéma, ainsi que sur la composition musicale des films. Vous pouvez y aller, vous deux. Je suis tout ouïe.
Luke, je suis ton père. Vous l'aurez sûrement reconnu, je vais vous parler de cette scène mythique dans l'Empire Contre-Attaque. Tout d'abord, petite mise en contexte. Ce film est le 2e volet de la trilogie originelle Star Wars. Il est sorti en 1980, 3 ans après celle du premier film intitulé Un Nouvel Espoir, qui a eu un succès aussi inattendu que phénoménal. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que ce serait trop long, mais en bref, le premier film se déroule dans une galaxie fictive et très lointaine. Sur la planète Tatooine, le jeune Luke Skywalker est un ouvrier agricole. Il a grandi avec son oncle et sa tante et n'a jamais connu ses parents. Et il se trouve pris dans un conflit l'opposant à l'Empire Galactique mené par le seigneur Sith Dark Vador. Les péripéties s'enchaînent. Luke apprend notamment par le biais du maître Jedi Obi-Wan Kenobi que son père a été tué par Dark Vador. Et à la fin du film, le jeune Skywalker et sa bande parviennent à déjouer le plan machiavélique échafaudé par l'Empire. Mais Dark Vador et ses sbires n'ont pas dit leur dernier mot. Dans le 2e volet, Luke Skywalker rencontre Yoda, un grand maître Jedi qui va l'aider à devenir un Jedi à son tour, afin de vaincre Dark Vador. Cependant, après quelques temps d'apprentissage et sans avoir complété sa formation, Luke se rend dans l'antre de Vador. S'ensuit un duel au sabre laser, l'arme de prédilection des chevaliers Jedi et des seigneurs Sith.
C'est Dark Vador qui en sort perdant, j'imagine.
Non, pas exactement. Après d'intenses minutes de combat, les deux hommes se trouvent dans une sorte de passerelle au-dessus du vide intergalactique. Et là, Vador parvient à couper la main de Luke. Le sabre laser et la main virevoltent et se perdent dans l'espace. Désarmé et acculé au-dessus du vide, le jeune Jedi ne peut plus rien faire, mais Dark Vador ne le tue pas.
Mais ça défie la logique même.
Et oui, c'est parce que le seigneur Sith sait quelque chose qui fait que plutôt que d'achever le jeune Luke, il essaye de le convaincre de rejoindre l'Empire Galactique. Mais Luke refuse, alors Vador lui demande s'il sait comment son père est mort. Luke lui répond « Obi-Wan m'a dit que c'est vous qui avez tué mon père » et là Vador rétorque, encore une fois, « Non Luke, je suis ton père ». Face à ce choc, le jeune Jedi crie d'incompréhension avant de se laisser tomber dans le vide et je vous laisse découvrir la suite.
Et l'aspect mythique de cette scène réside aussi dans la manière dont elle a été tournée.
Oui, exactement. Comme je l'ai dit plus tôt, le premier épisode de la saga a fait un carton. Les attentes étaient donc très élevées pour le deuxième film et cette scène où Vador révèle sa vraie identité a été tenue secrète jusqu'au dernier moment afin d'être sûr qu'il n'y ait aucune fuite. Donc durant le tournage de la scène, l'acteur qui incarnait Vador a dit la réplique officielle qui était inscrite dans le scénario, à savoir « Obi-Wan a tué ton père ». Et sur le plateau, seul Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, le réalisateur Irving Keschner et l'inventeur de Star Wars George Lucas étaient au courant de la vraie réplique. Celle-ci a été ajoutée en post-production, toujours dans le plus grand secret. Car pour l'anecdote, les réalisateurs de la saga n'étaient pas satisfaits de la voix de l'acteur qui est dans le costume de Dark Vador. Donc pour les trois films, c'est l'acteur James Earl Jones qui double tous les dialogues du Seigneur Sith. Et finalement, la réplique mythique n'a pas fuité avant la sortie du film en salle et elle a fait l'effet d'une bombe auprès des spectateurs.
Amusant à regarder et mélodieux à écouter aussi, j'imagine. On va parler de la musique de la saga.
Et oui, Star Wars, il suffit que ces deux mots soient prononcés pour que la musique résonne dans ma tête. Je ne veux pas vous faire l'affront de la chanter, vous risqueriez de ne pas la reconnaître. La musique des 9 longs métrages principaux a été écrite par l'américain John Williams. Son travail sur la saga compte parmi les contributions les plus populaires de musique de film. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont un Oscar, un Golden Globe, un Grammy Award, et j'en passe.
Mais dis-nous en plus sur ce fameux John Williams.
Depuis tout petit, John Williams baigne dans la musique. Son père est percussionniste pour la radio. Enfant, John apprend le piano. En 1955, alors qu'il n'a que 23 ans, il entre dans l'orchestre des studios de la Columbia à Hollywood. Là-bas, il se fait vite repérer en qualité de musicien, mais aussi de compositeur. En 1973, on lui présente un jeune réalisateur, un certain Steven Spielberg. John Williams accepte de travailler avec lui. C'est le début d'une belle et longue collaboration professionnelle, puisqu'ils vont monter ensemble des films comme Jurassic Park, Indiana Jones ou Les Dents de la Mer. Complètement emballé par cette collaboration, Steven Spielberg le présente à un autre jeune réalisateur, George Lucas, qui souhaite réaliser Star Wars. Comme dit à ce moment-là, John Williams est la star montante d'Hollywood et a été déjà couronné de 2 Oscars pour la musique d'Un violon sur le toit et des Dents de la Mer. John Williams accepte la proposition de George Lucas, qui avait déjà tout un imaginaire en tête pour la musique.
Ah bon ? Et quelles étaient les idées de George Lucas ?
À l'origine, il voulait une bande originale composée de morceaux classiques, écrits et déjà connus du public. Des morceaux de Strauss, par exemple. Le réalisateur pensait que seules des œuvres classiques pouvaient convenir au genre de la saga épique. Il demande donc à Williams de s'inspirer de Mendelssohn, Tchaïkovski, Holst. La première version de La Guerre des Étoiles avait été montée avec le boléro de Ravel, le Sacre du Printemps de Stravinsky ou les Planètes de Gustav Holst. Williams modifie cette bande originale et alors que l'époque est au rock et à la musique expérimentale, il introduit dans ses productions le concept du leitmotiv, développé par Richard Wagner au 19e siècle.
Explique-nous donc ce qu'est un leitmotiv, je te prie.
Un leitmotiv est un thème musical qui revient plusieurs fois dans une composition. Ainsi, pour chacun des personnages, John Williams compose une mélodie. Williams crée plus d'une cinquantaine de thèmes musicaux récurrents pour représenter, comme dit, les personnages, mais aussi d'autres éléments de l'intrigue. La musique prend une place prépondérante, interagissant avec les images, appelée parfois à soutenir l'action et à préparer le spectateur, avant celle-ci, à créer des émotions et des atmosphères particulières. Il utilise abondamment les cuivres, indissociables de la représentation musicale de la guerre. Certaines mélodies passent à de nombreuses reprises au cours d'un épisode de la saga, ce qui influence le spectateur. De là vient le génie de Williams et toute la force de son travail.
Comment évoquer toutes ces sagas sans penser au Seigneur des Anneaux ? La trilogie, adaptée de l'œuvre écrite par Tolkien, regorge de trésors visuels et linguistiques. Adrien atterrit dans Hors-Champ depuis son aigle Gwaihir pour nous donner un petit cours de philologie.
Aya, Erendil, Elenion, Enkalima.
Pardon ?
T'énerve pas, Martin. Ça veut juste dire « Salut à toi, Erendil, la plus bruyante des étoiles ». C'est ce que dit Sam, l'acolyte du protagoniste Frodon, avant d'allumer la fiole de Galadriel lorsqu'ils sont plongés dans l'obscurité de la grotte de la géante araignée Shelob. Et ce que j'ai essayé de déchiffrer, c'est le Quenya.
Attends, pas le pays.
Non, Martin, c'est le Quenya, ça s'écrit Q-U-E-N-Y-A, et c'est la langue parlée par les elfes Noldor, donc l'une des six langues inventées par Tolkien. C'est aussi appelé le haut elfique, et le Quenya, c'est probablement l'une de ses trouvailles majeures du philologue et auteur du Seigneur des Anneaux. Il a inventé de toutes pièces donc un vocabulaire, des règles de grammaire et une calligraphie précise pour chacune d'elles. Donc il l'a créé en 1915, et aujourd'hui elle compterait environ 2000 termes. Et en parlant linguistique, bah l'écrivain anglais, il parlait de cette langue, il disait justement « l'invention des langues est la fondation. Les histoires ont été conçues pour procurer un monde aux langues plutôt que l'inverse. Chez moi, le nom vient en premier et l'histoire suit. » Tolkien dit aussi s'être inspiré de la langue chinoise lorsqu'il a commencé à construire sa mythologie, et même si d'après lui cette influence a ensuite été fortement diminuée, il en subsiste encore quelques traits, par exemple l'absence de groupe de consonnes en début des mots, ou l'absence des consonnes occlusives sonores B, D et G, par exemple. Et on sait que le tournage des deux trilogies a été très éprouvant physiquement pour les comédiens, mais c'était aussi très dur au niveau des dialogues. Les acteurs étaient amenés à parler le langage elfique, donc, langage qui n'avait jamais été utilisé oralement auparavant. Et pour ce faire, ils ont disposé de l'aide d'Andrew Jack, un répétiteur de dialectes et de langues inventées qui leur a enseigné la phonétique pour donner vie à cette langue bien étrangère à eux. Et en 2012, le linguiste et spécialiste de Tolkien, Edward Klotzko, a même publié l'ouvrage « Le haut elfique pour les débutants » et il revient ainsi sur les bases de la langue telle que l'a imaginé Tolkien. Il pourrait s'avérer bien utile pour quiconque oserait se rendre en terre du milieu devant la grande porte de la Moria, par exemple, sans pouvoir entrer, avec le mot de passe suivant qui pourrait être prononcé, ça serait « Melon ».
Ah ça, je sais que ça signifie « ami ».
Tout à fait, Martin. Et si vous avez simplement l'intention de dire bonjour, un simple « Namarie Meldolnia » devrait suffire.
Et ça, c'est « salut à vous, les amis ».
Mais t'as vraiment bien révisé ton Quenya, Martin, dis-moi. Et pour la petite anecdote, Tolkien aujourd'hui repose avec sa femme à Oxford, et sur sa tombe, on peut lire « Perenne », qui est une inscription en haut elfique, et sous le nom de sa femme est inscrit « Lúthien ». Et ces deux noms sont tirés de l'une de ses histoires sur l'amour impossible entre un elfe et un homme.
Bon, on a fait Hunger Games, Le Seigneur des Anneaux. Il nous manque encore une saga iconique du 21e siècle. Déborah, tu tombes à pic, puisque tu as rencontré un ardent défenseur du sorcier le plus connu, Harry Potter. Tu vas nous faire rentrer dans la peau d'un fan de l'œuvre écrite par J.K. Rowling.
Eh oui, j'ai rencontré Kevin, un grand mordu de la saga. Il avait 7 ans quand le tout premier film Harry Potter à l'école des sorciers est sorti. Kevin est maintenant âgé de 29 ans et sa passion pour Poudlard est toujours intacte. Pour preuve, dans son salon, trois baguettes reposent fièrement sur une étagère. Notre grand fan ne fait pas les choses à moitié. Il a confectionné, avec une imprimante 3D, les mêmes supports pour baguettes que celles du magasin Ollivander.
Kevin doit avoir la baguette d'Harry Potter, j'imagine.
Bien sûr, Kevin a profité de son séjour en Angleterre il y a un an et demi pour visiter l'incontournable studio Warner Bros. Une immersion totale dans la magie de la saga. Même s'il a failli craquer plusieurs fois, ce passionné de magie s'est limité à 3 achats. Sans grande surprise, la baguette d'Harry. Impossible de passer à côté. Mais aussi la baguette de Suro, la plus puissante du monde des sorciers. Pour sa dernière emplette, Kevin a fait un choix sur mesure. Une baguette dont le descriptif reflète sa personnalité. Elle est toute noire, avec les ailes du mystérieux sombral autour du manche.
Jolie collection. Mais alors, on veut savoir dans laquelle des 5 écoles de Poudlard Kevin aurait aimé étudier.
Tu fais bien de faire la remarque, Martin. Kevin a fait le test sur le site Pottermore. Roulement de tambour, le choix pôle envoie à Serpentard. Même si Kevin préfère Gryffondor, il comprend et apprécie la complexité du personnage de Drago Malfoy, élève de l'école aux couleurs vert et argent. Et puis il nous a confié un petit secret. Il le trouve canon.
Quel coquin. Mais depuis le 21 octobre, TF1 diffuse une fois par semaine un film d'Harry Potter. De quoi ravir ce fan inconditionnel.
Alors oui et non. Finalement, ça ne change pas grand-chose pour lui. Kevin regarde un film de Harry Potter tous les mois ou tous les 2 mois. Il ne suit donc pas forcément la saga à la télé, car il préfère la visionner dans le désordre, selon ses envies du moment. Quand il fait froid, ou qu'il n'a pas le moral, il se repasse ses scènes préférées. Un vrai antidépresseur.
Et petite anecdote, pour les plus grands fans, il est aussi possible de pratiquer le Quidditch à Toulouse. L'équipe est carrément double médaillée de bronze à la Coupe de France de 2019 et 2020.
C'est ça. Et même si Kevin a déjà assisté à un match de ces moldus avec un balai entre les jambes, il ne se voit pas pratiquer ce sport. Ce n'est malheureusement pas assez magique pour notre fan. En parlant de magie, chers auditeurs, agrippez-vous bien aux objets auxquels vous tenez, car Kevin s'apprête à effectuer son premier tour.
Wingardium Leviosa.
Plongeons-nous maintenant dans un autre univers magique, mais moins glamour. Un marais puant, en fait. On passe aux recommandations de films avec Margot, qui intègre le podcast aujourd'hui. Bienvenue à toi. Tu vas nous parler d'un gros bonhomme vert qu'on peut trouver sur Netflix, c'est ça ?
Merci Martin. Écoutez, je suis super contente de faire mes débuts sur Hors Champ pour parler d'un de mes films d'animation préférés. Allez, petit blind test, je vous laisse deviner.
Ah mais c'est Shrek !
Et oui, la saga est disponible sur Netflix et avec l'arrivée de la déprime hivernale, j'ai voulu me replonger dans mes dessins animés d'enfance. Mais si j'ai regardé Shrek, c'est aussi un peu parce que mon fil Instagram se remplit peu à peu de références à Shrek et je me suis rendu compte que c'est devenu une véritable tendance chez la Gen Z. Genre, il y a plein d'exemples à donner, il y a des filtres Shrek qui explosent sur TikTok, des crocs Shrek sont sortis en septembre, l'influenceuse Lena Situation a fêté son anniversaire en novembre sur la thématique Shrek. Airbnb a même recréé le marais de Shrek en Écosse.
Mais pourquoi ce boom soudain ?
Shrek, c'est un peu l'anti-héros dans lequel on se retrouve et surtout qui décomplexe. Il nous dit « sois toi-même, oublie le regard des autres ». Shrek, au départ, il veut juste être tranquille dans son marais et pouvoir se goinfrer sans qu'on lui dise qu'il va prendre du poids. Ça l'intéresse pas d'être validé et il finit même par trouver l'amour en restant lui-même. Et c'est un message super fort, surtout aujourd'hui où sur les réseaux, on essaye toujours de montrer notre meilleure facette pour récolter des likes. Je pense que le paradoxe de notre génération, c'est qu'on a grandi avec les réseaux sociaux, mais on n'est pas né dedans, et donc je trouve qu'on réussit à avoir conscience de leur impact négatif, et qu'on essaye d'avoir un rapport moins malsain à ça. Et en fait, Shrek, c'est un peu le modèle qu'on aimerait atteindre. Pas parce qu'il prend des bains de boue, mais parce qu'il s'en fout de ce que la société lui dicte. Et moi, comme lui, j'aimerais ne pas porter d'importance à ce que les gens pensent. Et d'ailleurs, j'aimerais ne pas avoir peur de votre avis sur cette première chronique. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu te permettrais de faire si t'étais comme Shrek ?
Tu préfères pas savoir. Je vais botter en touche. C'est à moi de poser les questions, en fait. Larguons désormais les amarres pour sillonner vers une nouvelle saga populaire mêlant aventure et comique. Océane nous emmène sur le tournage de Pirates des Caraïbes avec quelques anecdotes.
Et oui Martin, parce que des anecdotes sur cette saga, il y en a plein. Saviez-vous que Johnny Depp s'est inspiré de Keith Richards pour créer le personnage de Jack Sparrow ? Il lui a d'ailleurs piqué quelques détails physiques, comme son goût pour les breloques accrochées dans les cheveux. Keith Richards a même fait son apparition dans deux volets sous le personnage d'Edward Teig, qui n'est autre que le père de Jack. Disons que c'était une façon pour Johnny Depp de rendre hommage aux pirates de l'époque, qui sont pour lui les rockers de nos jours.
Et apparemment, le Black Pearl a vraiment existé ?
Oui, pour les besoins du tournage du Secret du Coffre Maudit, les studios Disney ont entièrement fait construire le Black Pearl. Toute la création de cette pièce unique au monde s'est faite dans les chantiers navals de Bayou La Batre, en Alabama.
Et côté paysage, on est aussi servi.
Plusieurs scènes ont été tournées dans les Caraïbes. En plus de Saint-Vincent et les Grenadines, le 2 et le 3 ont été réalisés sur l'île de la Dominique. Et pour la petite anecdote, j'ai pu voir de mes propres yeux la souche de palmier sur laquelle se pose le perroquet de Compton dans le troisième volet. Mais aussi Indian Rivers, une rivière au milieu de la jungle où Jack Sparrow navigue dans une barque afin d'aller voir la sorcière dans le deuxième volet. Les studios Disney y ont même construit la maison de la sorcière, aujourd'hui détruite. De nombreux habitants de l'île de la Dominique ont travaillé sur le tournage et certains racontent même qu'Orlando Bloom était beaucoup plus sympathique que Johnny Depp. Pour continuer dans l'originalité, dans Le Secret du Coffre Maudit, une course pour obtenir la clé du coffre de David Jones amène le héros du film dans une cocoterie. Et pour ne prendre aucun risque, la production a fait enlever les noix de coco de près de 775 cocotiers qu'elle a ensuite offertes à la production locale.
Les personnages principaux ont aussi leur mystère.
Leurs noms sont tous liés aux oiseaux. Sparrow fait référence à un moineau, le nom d'Elizabeth Swan à un cygne, et enfin, William Turner était un célèbre ornithologue qui a même écrit le premier livre consacré uniquement aux oiseaux. Ce dernier a d'ailleurs été élu meilleur épéiste par un commentaire du scénariste du film et Jack Sparrow le pire. En tout cas, les films sont bien inspirés de la réalité puisque les Caraïbes étaient infestées de pirates à l'époque. En particulier au début du XVIIIe siècle, âge d'or de la piraterie dans cette mer où l'équipage du célèbre navire de Barbe Noire a même réellement existé. Commencé deux siècles plus tôt, la piraterie débute lorsque les Européens commencent à coloniser l'Amérique. Les navires marchands européens échangeaient alors des esclaves, du sucre, des métaux précieux et du tabac qui valait très cher. De quoi attirer des pirates bien moins sympathiques dans leurs eaux.
Préparez votre agenda, c'est les sorties de la semaine.
Sans les pirater, nous vous conseillons maintenant quelques films à voir. Place à Angela pour l'agenda de la semaine. Tout d'abord, direction la ville de Tokyo.
Et oui, avec le dernier film de Wim Wenders. Le célèbre réalisateur de Paris, Texas, nous emmène dans le quotidien d'un employé d'entretien de toilettes publiques. Avec l'esthétique qu'on lui connaît, Wim Wenders aborde les thèmes de la routine, de l'ennui et de la solitude. Sinon, à l'affiche, on peut citer le film La Tresse. Là, c'est Laetitia Colombani qui adapte elle-même son livre au cinéma. Donc pendant 2 heures, on découvre le parcours de 3 femmes en voyageant à travers l'Inde, l'Italie et le Canada. Bon, et pour ceux qui préfèrent les romances, par exemple comme toi, Lucas, on peut aller voir Anaïs Desmoustiers et Vincent Lacoste au cinéma, voir Le Temps d'aimer.
Pour les plus cinéphiles d'entre nous, une petite sortie ?
Eh oui, t'inquiète, j'ai tout prévu, Martin. On a le Festival International Séquences Courts-Métrages. C'est à Toulouse et partout en Occitanie, du 6 au 10 décembre. On a de la fiction, de l'animation, du documentaire, il y en aura pour tous les goûts.
Et pour ceux qui préfèrent rester sous la couette ?
Alors là, sortez vos gilets avec des trous plus grands pour les bras.
Effectivement, il manquait quelque chose pour descendre les poubelles.
Vous l'aurez compris, pour notre plus grand bonheur, Le Père Noël est une ordure est sorti mardi sur Netflix.
C'est la fin de cet épisode et on espère qu'il vous aura plu. On vous dit donc à la semaine prochaine et comme on dit chez Tolkien, Namarié Meldonia.